L'Éden de Satan numéro 5. La foi pour les promesses de l'âge de l'épouse. 25 septembre 2021. Pasteur Brian Kozurek. Ce soir, je voudrais parler sur la foi dont l'épouse aura besoin pour entrer dans les promesses que Dieu a prévues pour elle en 7 heures. La foi qui est un nécessaire pour croire les promesses de Dieu et ensuite agir dessus. En fait, il y a 3 promesses majeures pour l'épouse du temps de la fin, promises par Dieu, avant que les élus Naomi quittent la terre lors de l'enlèvement. Maintenant, nous savons que l'enlèvement en soi, est un processus de 3 choses, que Dieu accomplit lui-même, alors qu'il descend du ciel. Ces 3 choses sont 1. Le cri, 2. La voix, et 3. La trompette. Dieu accomplit toutes les 3 lors de sa descente, comme nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4:13-18. Ce sont les 3 choses que Dieu a promises qu'il fera lors de son apparition, laquelle précède la seconde venue de son Fils Jésus, que nous rencontrons dans les airs. Ainsi, pour comprendre l'enlèvement, nous devons premièrement comprendre qu'il y a une apparition du Seigneur avant la venue. Dans sa prédication, l'évangélisation au temps de la fin 3 juin 1962 p. 30, Frère Branham dit, « Maintenant, nous avons déjà vu et sommes témoins de l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, l'apparition et la venue sont 2 mots différents, apparaître et ensuite venir. Maintenant, si Esther l'apparition, il est Esther déjà apparu dans ces derniers jours, juste ici avec nous, dans les dernières années. Maintenant, c'est Esther un signe de sa venue. Il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est Esther lui. Car les gens d'Émi peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire, ainsi, c'est Esther l'apparition du Seigneur. Maintenant, vous vous souvenez, il est Esther dit en 2 endroits, apparition est venue. Et dans sa prédication, Jésus-Christ, le même 18 juillet 1962 p. 82. Frère Branham clarifie cela, que l'apparition doit précéder la venue. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de savoir que nous vivons ce dernier jour, juste, avant la venue du juste, de ton tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d'une apparition avant la venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître et puis venir. Eh bien, Père, nous savons que l'Église Esther passée par l'étape de la justification, elle Esther passée par l'étape de la sanctification, elle Esther passée par l'étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour s'ajuster au ministère de Jésus-Christ, s'accorder convenablement pour emporter l'Église. Maintenant, c'est Esther que je veux que vous compreniez, Esther que si vous n'avez mis, comprenez pas cet enseignement doctrinal de l'apparition précédant la venue, vous tomberez dans une erreur et Néhémie ne comprendrait pas le but du message dans son entièreté. Et n'oubliez pas que le message, c'est Esther le cri, avec lequel Dieu Esther descendu lors de son apparition, et le message concerne la préparation de l'épouse à la venue. Remarquez, comme nous lisons encore ce que Frère Branham dit, les pierres ont été affûtées pour s'ajuster au ministère de Jésus-Christ, s'accorder convenablement pour emporter l'Église. Ainsi, nous voyons que cette apparition, qui concerne la parousie de Christ, commence avec une grande épiphanie ou un rayonnement. La guérison sous ses ailes est la grande démonstration surnaturelle de la présence de Dieu, afin d'attirer l'attention des gens. L'accompagnement de cette grande épiphanéa sera une grande apocalypsis, ce qui est le dévoilement du Dieu Tout-Puissant devant nous, ou encore, connu comme la révélation de Christ, amenant l'épouse à la révélation de Jésus-Christ. Cette grande révélation est apportée afin d'aider l'épouse à comprendre la relation entre le Père et son Fils, premier-né, et ainsi de vous-même, en tant que Fils. C'est cette révélation de Jésus-Christ, qui permettra à l'épouse du temps de la fin, de recevoir les promesses que Dieu a particulièrement faites pour elle, et il est descendu pour accomplir ce qu'il a promis. La présence de Dieu, non reconnue 18 juin 1964 p. 1, travailler pour ce seul but, vous permettre de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S'il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la parole. Il est ici pour la confirmer. Il prouve qu'il la confirmera. Il est juste le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Ainsi, nous voyons la déclaration de frère Branham que nous avons lue plus tôt, être d'une importance capitale pour nous. Il a dit, juste avant la venue du juste, de ton tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d'une apparition avant la venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître et puis venir. Eh bien, Père, nous savons que l'Église est passée par l'étape de la justification, elle est passée par l'étape de la sanctification, elle est passée par l'étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour s'ajuster au ministère de Jésus-Christ, s'accorder convenablement pour emporter l'Église. Maintenant, nous voyons que l'Église avoir déjà traversé les trois étapes pendant les âges, la justification, la sanctification sous Wesley, et le baptême du Saint-Esprit sous l'âge de l'Église pentecôtiste. Mais ce matin, j'aimerais étudier trois promesses de Dieu, destiné à l'épouse du temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous, l'Église elle-même reste dans les âges de l'Église, l'âge de la Odyssée, mais l'épouse est rentrée dans l'âge de l'épouse. Et ce matin, nous allons considérer les trois promesses de Dieu pour l'épouse pendant l'âge de l'épouse. Dans sa prédication, un paradoxe 6 février 1964 BP, 25. Frère Branham dit, la Bible dit que dans cet âge de la Odyssée, Christ était à l'extérieur, frappant à la porte, essayant d'entrer. Il n'y a jamais eu un âge comme cela, à l'extérieur. Car il n'y aura plus d'âge de l'Église. Ceci est la fin. La Odyssée était le dernier âge, et la Pentecôte est cet âge de la Odyssée, et nous le savons. Il n'y aura plus jamais rien après la Odyssée. C'est cela. L'âge de la Odyssée est le dernier âge pour l'Église, mais pour l'épouse. Nous sommes entrés dans ce que nous appelons l'âge de l'épouse. Parce qu'en ce moment, Dieu arrête de traiter avec l'Église et maintenant, il n'émit traite qu'avec l'épouse. Frère Branham appelle cet âge, où Dieu traite spécialement avec l'épouse, l'âge de l'épouse et cela commence par l'apparition. Dans sa prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie 6 décembre 1965 p. 23. Frère Branham dit, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut dans l'âge de l'épouse, appelant l'épouse à sortir, et la rassemblant pour l'enlèvement. Car c'est l'âge dans lequel nous vivons. À mon humble avis, c'est la vérité. Remarquez qu'il nous a dit que l'âge de la Odyssée est le dernier âge de l'Église et c'était l'âge de l'Église pentecôtiste. Mais dans cette citation, il dit que l'épouse est montée au-dessus de ce dernier âge de l'Église, pour entrer dans ce qu'il appelle l'âge de l'épouse. Dans la citation suivante, nous verrons là qu'il y a certaines promesses associées à chaque de l'Église. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie 6 décembre 1965 p. 27. Frère Branham dit: les prophéties qui sont promises, chacune d'elles doit s'accomplir dans son âge. En effet, cela nous annonce, l'auteur l'a déjà annoncé, et nous nous attendons à ce qu'il agisse ainsi de nouveau. Quel temps nous vivons? Prenez quelque chose comme un calendrier. Vous consultez le calendrier pour connaître le jour de l'année dans lequel vous vivez, mais vous regardez dans la Bible de Dieu pour voir dans quel âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste ou dans l'âge baptiste. Nous vivons dans l'âge de l'épouse, de l'appel, du retour à Dieu par le canal par lequel il est promis de ramener cela. Il a promis de le faire. 63 Mais comme c'était le cas dans chaque âge, les gens laissent les hommes apporter leur propre interprétation à cela, par la théologie, et ils refusent de croire la divine confirmation de Dieu là-dessus. S'esterce à l'interprétation de Dieu, pas ce que je dis, ni ce que quelqu'un d'autre dit. Mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait, confirme que s'esterce Dieu lui-même, qui interprète sa parole. Maintenant, cet appel Esther, ce dont l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens 10, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, maintenant cette glorification dans les saints, Esther en doxazo, qui Esther la doxa de Dieu magnifiée dans les saints, les opinions, les valeurs et les jugements magnifiés dans les saints et admirés dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage auprès d'eux vous a été cru. Et frère Branham, quand il était ravi de l'autre côté, n'a-t-il pas dit aux gens: je n'ai prêché que ce que Paul a prêché? Et les gens ont répondu: nous nous reposons là-dessus. Frère Branham, Paul continue: on s'estère pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Quelle vocation? Ou la doxa de Dieu, Esther magnifiée dans les saints, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que cet appel Néhémie se rapporte qu'à la gloire, qui était en Christ, être en nous, faisant que nous soyons un avec Christ, comme lui et Dieu, était un. Et c'était la prière de Jésus dans Jean 17. Jean 17, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire, la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23 Moi en eux, et toi en moi, tirez afin qu'ils soient parfaitement matures un. Maintenant, c'est important pour nous de savoir, parce qu'aussi longtemps que nous n'y vivons plus dans l'âge de l'Église pentecôtiste, mais vivons dans l'âge de l'épouse, alors il doit y avoir des promesses de Dieu pour l'épouse, qui sont associées à l'âge de l'épouse. Ainsi, ce matin, nous voulons savoir ce que sont ces promesses, qui sont particulières et qui n'émis sont pas pour l'Église. Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, l'union invisible de l'épouse 25 novembre 1965 p. 130. Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est Esther de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est Esther du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Qu'aucun homme n'ait aimé vous trompe par son credo. Rester ferme dans la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et si cette parole était la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. Si Néhémie le fait pas, ce n'était pas la parole pour ce jour. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte, Néhémie marchera pas en ce jour-ci. Non, monsieur, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est Esther pour l'épouse, le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes se sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé n'aurait opéré du temps de Moïse, pas plus que la loi de Moïse n'aurait opéré du temps de Paul. Ainsi, de nouveau nous voyons qu'il y a quelque chose pour l'épouse dans l'âge de l'épouse, lequel est différent de ce qu'ils avaient dans les autres âges. De nouveau, dans sa prédication, le lever du soleil 18 avril 1965 p. 41. Comme Christ fut le premier à ressusciter parmi tous les prophètes et les autres, et bien que représenté sous forme de type à plusieurs endroits, il fut les prémices de ceux qui dormaient. Et de l'épouse tirée de Christ, hors des églises, il faudra qu'une gerbe soit agitée de nouveau dans les derniers jours. Oh là là, 95 l'agitation de la gerbe. De quelle gerbe s'agissait-il? De la première qui avait atteint la maturité, la première qui prouva qu'elle était du blé, qui prouva qu'elle était une gerbe. 96 Alléluia. Je suis sûr que vous comprenez ce dont je parle. Elle était agitée au-dessus du peuple. Et la première fois que cela se manifestera pendant l'âge de l'épouse, pour une résurrection hors des ténèbres des dénominations, il y aura un message disant que la parole a de nouveau atteint la pleine maturité dans toute sa puissance, et qu'elle est agitée au-dessus du peuple, avec les mêmes signes et miracles que ceux qu'il a accomplis autrefois. Ainsi, nous le voyons focaliser notre attention, du fait qu'il viendra une maturation pour l'épouse. Et remarquez que frère Branham indique le ministère alpha de Jésus-Christ, montrant qu'il était la gerbe agitée dans le premier âge. Il était les prémices de la résurrection. Ainsi, il nous dit qu'il y aura une gerbe agitée dans l'oméga ou l'âge de l'épouse. Et il parlait du ministère que Dieu lui avait donné, devant être le précurseur de la prochaine agitation, l'âge de l'épouse. Maintenant, gardez ceci à l'esprit, alors que nous allons dans 1 Thessaloniciens 4, 13, pour lire ce que Dieu a promis d'accomplir lui-même dans ce dernier âge, finissant les âges de l'Église et introduisant dans l'âge de l'épouse. Ensuite, nous voyons après ce que le Seigneur lui-même fait, nous verrons dans cette prédication ce que le Seigneur a promis pour l'épouse dans l'âge de l'épouse aussi. Car chaque âge est identifié par certaines promesses de Dieu pour cet âge. 1 Thessaloniciens 4, 13 Nous n'aimons voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous n'aimiez vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous n'aimons et devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, concernant ce cri que nous voyons le Seigneur descendre avec, le mot grec utilisé est kalusma, et parle d'un commandement militaire. Un message qui Esther proclamait. En fait, frère Branham nous a enseigné ceci dans sa prédication. L'enlèvement où il dit, le cri Esther le message. Dans sa prédication, l'enlèvement 4 décembre 1965 p. 75. Frère Branham dit, trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse, une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est-ce le message qui Esther proclamait en premier? Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. 131 Dieu a une manière de faire les choses, et il n'aime et change jamais son principe. Il n'aime et change jamais son. Il est Esther le Dieu qui n'aime et change pas. Dans Amos 3.7, il dit qu'il n'aime et fera rien sur la terre sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. De nouveau dans l'enlèvement 4 décembre 1965. Frère Branham dit, 152. Premièrement, c'est Esther le son ou plutôt la première chose, c'est Esther la trompette et une ou plutôt une voix, un cri de commandement et ensuite une voix et enfin une trompette. Un cri de commandement, c'est Esther un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est Esther une voix de résurrection. C'est Esther la même voix forte qui, dans Saint Jean 11.38-44, rappela Lazare de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevé. Maintenant observez comment les trois choses arrivent. Et une citation de plus, dans l'enlèvement 4 décembre 1965 p. 89. Telle est la chose suivante? C'était une trompette. Une voix. Un cri de commandement. Une voix. Une trompette. La troisième chose est une trompette, qui, chaque fois lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête, et ça sera le souper de l'épouse. Le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. Voyez, 154 la première chose qui arrive, c'est Esther son message qui convoque l'épouse. La chose suivante, c'est Esther la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les cieux au ciel. Eh bien, c'est Esther ce qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là près maintenant. La seule chose que l'Église qui sort, doit encore faire, c'est Esther de rester au soleil pour mûrir. Ainsi, nous voyons les trois choses que Dieu doit faire en ce temps de la fin pour l'épouse. Et c'est Esther la foi passive, dans laquelle nous observons simplement ce que Dieu fait. Mais ensuite, doit intervenir une foi active de notre part, car Dieu qui a fait la promesse, Esther ici pour l'accomplir. Et nous savons que selon Hébreux 12, 2, qu'il est Esther l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais Paul dit aussi que dans Philippiens 1, 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et Paul dit encore dans Philippiens 2, 13, car c'est Esther Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ainsi, ce mûrissement ou cette maturation de l'épouse, laquelle nous prépare pour la moisson ou la disparition, concerne celui qui descend avec un cri, produisant en nous, le vouloir et le faire. En d'autres termes, nous amenant de la foi passive qui consiste à observer simplement ce qu'il fait, et nous amenant à l'endroit, de l'écho ou du reflet de la doxa de Dieu dans nos vases. Maintenant, ce soir, Nous avons déjà considéré les trois promesses pour les âges de l'Église, de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, et nous avons aussi considéré les trois choses que Dieu fait lui-même en cette heure, descendant avec un cri, lequel Esther le message, et avec la voix, laquelle Esther la résurrection des saints endormis, pour se rassembler avec les saints vivants, et ensuite la trompette, qui sera l'appel au souper des noces. Et c'est Esther en ce moment-là que l'épouse du temps de la fin sera enlevée d'ici. Maintenant, comme promis, pour le reste de ce service, j'aimerais considérer les trois promesses pour l'épouse, lesquelles le sont pour elle seule, devant s'accomplir en elle au cours de cet âge de l'épouse, lequel Esther l'âge dans lequel nous vivons maintenant, jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Nous savons tous que nous devons premièrement avoir le gage de notre rédemption, qui est Esther le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, avant que nous n'ayons recevions le changement du corps, car sans le renouvellement de notre pensée, qui est Esther la réception de la doxa de Dieu, ses opinions, ses valeurs, et ses jugements, nous n'y recevrons aucune transformation comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 12. Romains 12, 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De Néhémie vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui signifie que vous serez capable de tester et d'accepter ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce que Jésus voulait dire quand il disait, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » Alors Paul dit au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Remarquez qu'il dit, « À chaque homme, il est à donner une mesure de foi et nous savons que frère Branham nous a enseigné que la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Maintenant, cela nous amène aux trois promesses que nous avons de la part de Dieu en cette heure. Ainsi, tournons nos Bibles dans Éphésiens au chapitre 1 pour voir la première de ces trois promesses. Éphésiens 1. 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5 Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, ce mot adoption a été utilisé ici dans Éphésiens 1. Il est utilisé par l'apôtre Paul. 5 fois et 5 Esther le nombre de la grâce. Le mot grec utilisé Esther, Uyotosia et Esther défini comme le placement d'un fils. En dehors d'Éphésiens 1. Esther utilisé deux fois dans Romains 8. Une fois dans Romains 9 et une fois dans Galates 4. Dans Éphésiens 1. L'apôtre Paul associe cette adoption avec notre arrivée en maturité et notre capacité de compréhension de l'héritage que nous devons recevoir. Éphésiens 1, 5 Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Au verset 10, il nous dit à quel moment du temps cet esprit d'adoption atteindra sa pleine manifestation. 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ensuite au verset 11, il nous dit ce que cet esprit d'adoption se rapporte à notre héritage. 11 en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons à espérer en Christ. 13 en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Remarquez que l'apôtre Paul nous dit que cet esprit d'adoption, qui traite avec notre héritage, commence quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Il l'appelle le sceau de la promesse étant l'adoption et l'héritage en soi. Éphésiens 1, 13 en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ainsi, voici votre baptême du Saint-Esprit. Est-ce juste? Ensuite, au verset 14, Paul nous dit que l'esprit d'adoption est la compte, le gage, que nous recevrons notre héritage. 14 lequel est un gage, ainsi, cela se rapporte à l'héritage. Et si cela concerne l'héritage, alors nous devons savoir comment il se rapporte à notre héritage. Et si cela concerne notre héritage, alors nous devons savoir comment cela traite avec notre héritage. Et Paul nous le dira dans quelques versets de plus. Continuons à lire de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Maintenant, c'est du corps dont il parle ici, à la louange de sa gloire. Maintenant cette louange de sa gloire, c'est sa doxa, laquelle est ses opinions, valeurs et jugements. Ainsi, Paul parle de la pensée de Dieu, que vous apportera ce baptême de l'Esprit, et c'est un acompte ou un gage. Maintenant, continuons avec Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, maintenant, souvenez-vous que la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. C'est ce que frère Branham nous a enseigné. Ainsi, Paul dit que ces gens ont atteint la foi ou la révélation. Ensuite il ajoute, « Et de votre charité pour tous les saints, maintenant, nous savons que l'amour est une expression extérieure de votre révélation. » Ce même apôtre Paul nous a dit dans le livre des Corinthiens, « Demeure la foi, l'espérance et l'amour, et le plus grand de tous, c'est l'amour. » Pourquoi? Parce que la foi, c'est là où tout commence. Et la foi est une révélation, et si c'est véritablement révélé à eux, vous vous attendez à quelque chose de ce qui est révélé. Et l'espérance est un gage de notre attente. Et l'amour est toujours caractérisé par la donation. Maintenant, allons au verset Éphésiens 1, 16. Je n'ai mis cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Remarquez ici que Paul n'a pas cessé de rendre grâce pour les gens, parce qu'il savait qu'ils étaient nés de nouveau, qu'ils avaient la foi et que c'était exprimé par l'amour les uns envers les autres. Et ainsi, il n'y avait qu'une seule chose qui restait pour s'accomplir. Nous le voyons alors au verset suivant, Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi, Jésus a un Dieu, et ce Dieu est le Père de gloire, et Paul priait que ce Dieu, qui est le Père de gloire, et souvenez-vous que le mot gloire, Esther, le mot grec doxa, qui Esther l'opinion, les valeurs et les jugements de Dieu, en d'autres termes sa pensée. Et si Paul prie que le Père de cette doxa vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, remarquez que Paul vit quelque chose dans l'Église en ce moment-là. Ils ont commencé dans la foi et ont atteint le niveau de l'amour, lequel Esther l'expression de cette foi, et il a dit qu'il reste à une chose supplémentaire pour que le grand Dieu descende avec l'esprit de sagesse et révélation dans ses connaissances, parce que Paul savait en tant qu'un juif bien enseigné que l'adoption concernait le fils atteignant la pleine maturité et compréhension des voies de son père, et en arriver au point où il Esther, tout le temps occupé aux affaires de son père. Maintenant, le tout commence par notre réception de l'esprit d'adoption, lequel Esther le baptême du Saint-Esprit, parce qu'à moins que vous n'ayez l'esprit de Dieu en vous, vous n'y serez jamais capable de comprendre les choses de Dieu. Ainsi, j'espère que vous pouvez voir l'importance de cette promesse de l'esprit d'adoption. Dans sa prédication, La clé pour la porte, 7 octobre 1962 p. 68. Frère Branham dit, personne n'émis peut comprendre la parole en dehors du baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit avoir le Saint-Esprit et doute de la véracité de la parole, il y a quelque chose de faux. Dieu dit dans Esaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui Néhémie se lasse pas de pardonner. 8, car mes pensées Néhémie sont pas vos pensées, et vos voies Néhémie sont pas mes voies, dit l'Éternel. 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et l'apôtre Paul nous dit que la seule manière de comprendre les pensées de Dieu, c'est Esther d'avoir l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est Esther la nouvelle naissance. Et c'est Esther l'Esprit dont vous avez besoin pour l'adoption. 1 Corinthiens 2, 9, mais, comme il Esther écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'émis sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ni Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par conséquent, si vous n'avez pas son Esprit en vous, comment allez-vous faire pour que ces choses vous soient révélées? Car l'Esprit n'ont pas un Esprit, mais l'Esprit de Dieu, sont tout, même les profondeurs de Dieu. 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est Esther l'esprit de l'homme qui Esther en lui. De même, personne n'aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est Esther l'esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu, alors cela puise sa source en Dieu. Ainsi, c'est Esther une partie de l'esprit ou de la vie de Dieu, dont il parle. Et nous avons cela dans l'ordre, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal n'émis reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il n'émis peut les connaître, parce que c'est Esther spirituellement qu'on en juge. En d'autres termes, il faut l'Esprit de Dieu en vous pour les discerner ou les comprendre. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est Esther lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Maintenant, considérons encore cette pensée de la nouvelle naissance vivifiant en vous, la parole de Dieu libérant la nature de Dieu par son esprit dans vos vases mortels. Éphésiens 2, 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici Paul nous dit que nous étions spirituellement morts et devrions être vivifiés. Ce qui signifie ramener à la vie. Et nous voyons dans 1 Pierre 3, 18 que cette vivification était accomplie par l'Esprit de Dieu et qu'en fait, Dieu a dû vivifier son Fils de la mort à la vie. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Maintenant, ce mot vivifié a été traduit à partir du mot grec zoopoio, qui signifie donner la vie à ou faire amener la vie. Ainsi, vous voyez que c'était l'Esprit de Dieu, entrant en vous, qui vous rend vivant quant à sa parole. 1 Corinthiens 15, 45 Esther pourquoi il Esther écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam Esther est devenu un esprit vivifiant. Ainsi, c'est Esther l'Esprit de Dieu, qui l'a placé dans son Fils, qui a été libéré sur l'Église, et fait de lui, un esprit vivifiant, car Paul dit aussi dans Romains 8, 11 et si l'esprit de celui, c'est-à-dire Dieu, le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui c'est-à-dire encore, Dieu, le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et nous savons qu'il y a 18 Écritures, qui nous dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare au changement du corps. Remarquez ici que Paul nous dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Père qui vivifiera aussi vos corps mortels. Et nous savons que Dieu le fait par le renouvellement de la pensée. Ainsi, si c'est l'heure du changement du corps du mortel et l'immortel, alors Dieu, le Père doit être ici pour changer nos corps. Et nous savons que pour que cela s'accomplisse, nous devons recevoir premièrement un renouvellement de notre pensée, ce qu'Esther Romains 12. Dans Jean 1, 12, nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, d'actualiser ou de manifester ce que nous sommes déjà, enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, les baptistes vous diront que cela signifie que vous étiez un porc, et que Dieu vous a donné la puissance de devenir un fils de Dieu, ainsi vous avez changé d'espèce. Mais maintenant, ce qu'ils disent, est-ce contraire à la loi de la vie dans Genèse 1, 11, qui dit, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Mais ce que Jean nous dit ici, Esther commet pour ceux qui sont nés d'une nature pour le recevoir, ce sont ceux à qui Dieu a donné une capacité de prendre la bonne décision et d'accepter le rôle que Dieu leur a donné dans la filiation. Ce même apôtre en parlait aussi dans 1 Jean 3. Bien-aimés, vous êtes déjà fils, quoique vous n'ayez aimé le savez pas réellement. Mais quand il apparaîtra et se manifestera lui-même dans son vrai caractère, vous serez semblable à lui, car vous le verrez tel qu'il est, et en le voyant tel qu'il est véritablement, vous commencerez à voir ce que vous êtes véritablement et ainsi, vous allez commencer à vous aligner vous-même avec ce que vous êtes en réalité. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens, Paul nous a fait savoir que la pensée de Dieu, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, devait entrer dans l'Église et dans 2 Thessaloniciens, 10. Il nous dit que quand son évangile serait cru en ce jour-là, c'est Esther en ce moment-là, que Dieu viendra en doxa ou être glorifié dans son Église. Ce qui signifie qu'en ce jour-là, quand la pensée qui était en Christ entre dans l'Église, alors, l'opinion, l'évaluation et le jugement de Dieu sera sur les gens. Ils auront la pensée de Christ, et ils sauront quoi faire avec sa parole. En fait, c'est ce que frère Branham nous a dit dans sa prédication. La parole par Lester, la semence originale, 18 mars 1962 SP, 175. Remarquez, quelle harmonie. Jésus-Néhémie faisait jamais rien qu'il n'ait d'abord vu faire au Père, ou qu'il n'ait mis lui a d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ. Voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l'épouse. Et il lui montre sa parole de vie. C'est Esther lui qui la lui montre, et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien n'émis peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence Esther mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Et là, j'aime un gros Alléluia. Voici le secret. La parole Esther dont l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a l'ainsi dit le Seigneur. Elle a déjà ce que le Seigneur a ainsi dit. Ensuite, la parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. 421 Ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne Néhémie peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car Esther lui-même en eux, qui continue à accomplir sa parole, comme il l'avait menée à terme à son époque. Toute chose, quand il était ici, il n'a pas tout mené à terme quand il était ici, car ce n'était pas encore le moment. Et nous savons que ce n'était pas encore le temps, parce que ceci est Esther l'heure appropriée pour elle, car ceci est Esther l'âge de l'épouse. Maintenant, remarquez le verset suivant. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, compréhension, pour que vous sachiez quelle est l'espérance ou le gage de votre attente qui s'attache à son appel. C'est encore cet appel de la doxa, quelle est la richesse de la gloire de la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements de son héritage qu'il réserve aux saints. Ainsi, vous voyez, jusqu'à ce que nous connaissions le but et le plan de Dieu pour notre héritage, nous n'y sommes pas prêts à le recevoir. Ainsi, Paul nous a dit que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père est à l'esprit d'adoption. C'est à de vous préparer pour l'adoption. Frère Branham nous a enseigné que l'enfant, quoique fils, était placé sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au temps de l'adoption, et quand il recevait la pensée de son Père, alors il était digne d'être adopté. Et alors, chaque chose qui appartenait au Père, était partagée équitablement avec le Fils. J'espère que vous saisissez ce que j'essaie de vous dire. Dieu est venu en cette heure avec l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances pour nous apporter le changement de la pensée et de nous préparer pour un changement du corps, que Paul a appelé l'adoption, la rédemption du corps. Les 70 semaines de Daniel 6 août 1961 p. 36. Et je crois réellement que c'est ça qui est arrivé. Et c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il n'aimait l'a pas fait auparavant. Et s'il n'aimait l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, Néhémie sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, il a dit, le sage comprendra, au dernier, en ces derniers jours, cela lui a été donné. 68 L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est revenu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? Dans Romains 8, 23, nous lisons, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Remarquez, Paul dit que nous avons les prémices de l'Esprit, et ce qui initie notre processus d'adoption qui estère la rédemption du corps. En fait, c'estère ce qu'il dit aussi dans Romains 8, 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. » Dans son message, La position Christ 22 mai 1960 MP 83, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'A. L'assemblée dit adoption -NDE maintenant, après que vous avez été adopté, d'accord, après que vous avez été adopté, que vous avez été placé, alors vous comprenez. Après que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été placé correctement dans le corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes né de nouveau, vous l'êtes, ça, c'est votre naissance. Mais maintenant vous êtes placé dans votre position. Nous n'avons point reçu un esprit de crainte, mais nous avons reçu un esprit. Nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père, ce qui veut dire mon Dieu, c'est ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment cela se fait-il? Vous dites, gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne me dérange pas. Je suis enfant de Dieu. Alors vous sortez faire les chose que vous faites, l'Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. 153 Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12 Voyez, voyez, 160 Maintenant lisons, ensuite on va devoir s'arrêter, parce que notre temps file. Très bien. Le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, de nous adopter selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. 161 Il avait formé lui-même ce dessein, avant la fondation du monde. Combien le comprennent? Voyez, pour le mettre à exécution lorsque, 162 Oh, là là, nous voilà à nouveau. Voyez, oh, Néhémie, nous arrêtons pas vous voyez? Lorsque les temps seraient accomplis. 163 Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit. Dans la dispensation, version anglaise du roi Jacques-N.D.T. De la plénitude du temps. C'est-à-dire quoi? La plénitude du temps? Il y a eu la dispensation de... Eh bien, il y a la dispensation de la loi mosaïque. Il y a la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation de l'adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. Et lorsque les temps seront accomplis, lorsque la dispensation de la plénitude du temps. C'est-à-dire quoi cette plénitude du temps? C'est-à-dire quand les morts ressusciteront, quand la maladie cessera, quand toute la terre cessera de soupirer. La plénitude de la dispensation du temps. Suivez attentivement ceci. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. N'êtes-vous pas heureux? Comment va-t-il le faire? Il va réunir toutes choses en qui? L'assemblée dit, en Christ. -NDE. Comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit. Par un seul esprit nous sommes tous baptisés. Pour former un seul corps. Un seul corps. Et ce corps restèrent le corps de qui? De Christ. Déjà jugé. Il a pris notre jugement. Alors, que sommes-nous? Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et chaque fois qu'il regarde le corps, ce corps restera là. Il restera assis, tout sanglant. Et moi, je suis là-dedans. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Il passe par-dessus. Oh! Là-là! Et dans la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux. Et nous savons que l'esprit d'adoption, c'est l'esprit de Dieu, en nous pour nous amener du mortel à l'immortel. Et c'est pourquoi Éphésiens 1, 19 parle de l'esprit d'adoption et de l'héritage, ensuite dit, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, nous pouvons voir par Éphésiens 1, que Paul regardait à l'esprit de l'adoption, qui était à l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, devant entrer dans l'Église pour faire connaître à l'Église la multiple sagesse de Dieu, que la pensée de Dieu entrerait dans l'Église, la préparant pour le changement du corps, lequel est la rédemption du corps, qui est l'adoption. Et remarquez, tout cela a commencé quand vous étiez en Dieu, comme un attribut avant que le monde n'ait été formé. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. Lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, cela nous ramène là où je veux vous amener ce matin, et s'estère en arrière au commencement, où nous étions dans la pensée de Dieu pour commencer, en tant qu'attribut de Dieu. Dans sa prédication, écoutez, le 1.0.1956p, 27-28. Frère Branham dit, bon, si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un jour où cet enfant devenait mûr. C'est en ce jour-là que l'Église pentecôtiste devrait se retrouver aujourd'hui. Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les méthodistes. Mais qu'y a-t-il? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, où elle est à une grande place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé. Il le revêtait d'une belle robe. Et on tenait une cérémonie. Ce père adopta ce même fils qui était né. Il l'adoptait dans sa famille. Ou, en d'autres termes, il le plaçait dans sa position, ce qu'il était dans la famille. Et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le père avait. En d'autres termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi valable que celui de son papa. Et c'est là que l'Église devrait être aujourd'hui. Elle devrait être à un niveau où, et je le dis à moi-même et à vous, oh, que c'est pitoyable, lorsque je vais ça et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés que ce que nous demanderons au Père au nom de son Fils, il nous l'accordera. C'est vrai. 28. Il l'amena à un endroit, et là il l'adoptait dans sa famille, ou à un moment spécial où il l'amenait à l'écart. Il devrait en être ainsi de l'Église ce soir. Un ange vient vers vous, Il vous met à l'écart. Il vous montre votre position. Là où vous êtes. Pas un groupe de gens qui vous impose les mains. Ça. C'est extraterrestre. Je parle de Dieu. Dieu vous met à l'écart à votre place. Dans votre position. C'est ster Dieu qui fait ça. C'est ster votre tuteur qui fait ça. Il est ster présent quand cela se passe. Remarquez donc. Dieu faisait ici. Exactement ce qu'il avait demandé à l'homme de faire. Son fils avait été obéissant. Il s'était occupé du Père. Il n'avait pas erré ça et là. À des endroits. Disant, voyez-vous qui je suis? Ma campagne Esther la plus grande du pays. Oui. Oui. Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au Père. Il n'avait pas vagabondé autour des choses du monde. S'en mêlant. Il avait été obéissant. Et Dieu a pris les témoins de la terre. Pierre. Jacques et Jean. Il a fait descendre Élie et Moïse du ciel. Il les a placés là et il a adopté son propre fils. Il a été glorifié en présence de ses témoins. Et le Dieu Esther descendu et l'a couvert de l'ombre. Et la Bible dit, ses vêtements étaient étincelants comme le soleil. Vous voyez la robe? Sa glorification? Il l'a revêtue d'une robe devant les témoins célestes. Devant les témoins terrestres. Remarquez cette glorification. Cette doxa, les opinions, valeurs et jugements de Dieu, étaient magnifiés dans tout son être. Et dans sa prédication, une délivrance totale 12 juillet 1959 p. 56. Frère Branham le tire de Christ et montre comme cela Esther son être en vous et en moi, comme fils, aussi. Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait se comporter en homme. Il était complètement, totalement un homme, dans son corps. Mais dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Aussi fit-il soumettre sa chair à l'esprit qui était en lui. Vous voyez, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations, juste comme nous. C'est Esther la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu'il était. Hébreux 1, 4 dit qu'il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme. Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale, et il le remplit de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui, sans mesure. Et il a été tenté comme nous. Et il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il Esther ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans de lui. Et il aurait pu être un homme, car il était un homme, mais il s'était totalement et complètement abandonné en tant qu'homme entre les mains de Dieu, au service de Dieu. 88 Et il est Esther notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est Esther notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin que nous soyons des sujets du royaume de Dieu. 89 Il était totalement un homme, il était totalement Dieu. Mais il avait abandonné son naturel à son, et son corps et ses propres pensées, ses propres œuvres, ainsi que ses propres soucis, et, je n'ai mis fait que ce qui est agréable au Père. Vous y êtes. Totalement délivré vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont venus le voir, des grands hommes, et ils ont dit, Rabbi un tel, et ils ont essayé de le corrompre pour qu'il se joigne à leurs affiliations et dénominations. Mais il était totalement délivré parce qu'il se confiait en Dieu. 90 Le psalmiste n'a-t-il pas dit, « Tu le délivreras. » Car il s'était entièrement confié en moi. Voyez-vous? Et dans sa prédication? Écoutez, le 15.12.95p39. Frère Branham dit, remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait un certain âge, s'il avait été un bon enfant, s'il avait été zélé pour les travaux du Père, s'il avait été stable, s'il excellait toujours dans les œuvres du Seigneur, s'il n'était pas ballotté à tout vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c'était, si son esprit était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu'il travaillait d'un seul cœur, étant zélé pour sauver les âmes et qu'il n'aimait se mêlait pas aux disputes de l'Église. Et puis dans l'Ancien Testament, il arrive un jour où ce père faisait sortir son fils devant le public comme un témoignage. Il le revêtait d'une robe et le plaçait sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de l'adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils qui était né dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l'âge. Et c'était un enfant digne de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout lecteur de la Bible sait cela, le placement d'un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le droit. Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le chèque. C'est là que devrait être l'Église aujourd'hui. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez plus que ceci, car je m'en veux au Père. Remarquez que frère Branham montre que Jean 14, 12, Esther l'évidence que le nom Esther sur le chéquier, et que ce fils Esther placé en position. Jean Esther une partie 2, l'évidence de l'esprit d'adoption, que vous êtes placé comme fils. Jean 14, 12, s'accomplit dans cette promesse de l'âge de l'épouse du temps de la fin. Dans une autre prédication, que frère Branham a prêché, intitulée Écoutez, le 8 mars 1958 SP, 48. Il a prêché 18 fois. De toutes les façons, il dit, maintenant, le fils qui était sien. En d'autres termes, il l'adoptait. Il plaçait son fils en position. Comment le faisait-il? Ensuite, le nom de ce fils sur le chèque était aussi valable que celui du père, parce qu'il était dans sa position. Le père avait confirmé, a placé ce fils dans sa position. Et j'espère que vous le saisissez. Et alors ce fils était héritier de ce que le père avait. Et nous sommes ce que Dieu a, nous sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes fils de Dieu, placés en position dans le royaume, gardant nos positions. Maintenant, Dieu a beaucoup d'endroits où il peut vous placer. Les uns sont apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Dieu place ce fils en position. Et dans sa prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli 11 novembre 1955 p. 56. Oui, naître de nouveau Esther est une merveilleuse chose, mais ce n'est-ce pas tout, frère. Souvenez-vous, il y avait l'adoption de cet enfant. Tout l'Ancien Testament doit être appliqué dans le Nouveau. Nous en connaissons les types et les ombres. Vous, Néhémie, pouvez pas voir un homme, une image avec une main suspendue comme ceci, et ensuite lorsque le négatif est rendu positif, cela n'apparaît pas. Cela doit être complet. Remarquez, comme il continuait donc, ce fils, Si le tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était un fils loyal, qu'il se souciait des affaires de son père, qu'il était un homme vaillant, qui savait comment gérer les affaires de son père. Oh! Son père était fier dans son cœur, car il l'aimait. 57 Et ensuite, lorsqu'il devenait majeur, à un certain âge, il fixait un grand jour. Et il appelait des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le revêtait d'une robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait une cérémonie d'adoption. Et le père, le propre père de ce garçon, adoptait le garçon dans sa propre famille. Maintenant, vous savez ce qu'Esther le placement du fils selon les Écritures. Et il l'adoptait dans sa propre famille. Et par conséquent, à partir de ce jour-là, ce garçon avait le droit légal d'établir l'échec de son papa, ou tout ce que le père avait. Il en était l'héritier. Il était adopté. Il était tout à fait son égal. Il avait l'autorité sur tous les biens de son père. Il n'était plus un tuteur, mais l'était. Ou plutôt sous le soin d'un tuteur, tout lui appartenait. Et c'est Esther là où l'église en Esther est arrivée maintenant. Lorsque vous aviez fait demi-tour, là-bas, et étiez né de nouveau, vous avez pensé que cela a réglé la question. Vous vous êtes livré à la facilité. Maintenant, vous vous retrouvez pris en sandwich, n'ayant pas suffisamment de manne, rétrograde en réunion après réunion. En réalité, c'est Esther Dieu qui observait la conduite de son Église. 58 Regardez. Dieu avait fait la même chose à son propre fils. Il avait pris trois témoins. La Bible dit, trois grands témoignages. Et il prit Pierre, Jacques, et Jean, l'amour, l'espérance et la charité, et il les conduisit sur une montagne extrêmement élevée, une très haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux, et ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une voix se fit entendre et dit, celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu adoptait son propre fils. Il le fit briller en le glorifiant, en le transfigurant. Et il confirma cela devant les témoins, disant, celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Pas étonnant que Jésus a pu dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. 59 Maintenant, la raison pour laquelle l'église Néhémie progresse pas, frère, c'est Esther que vous avez sauté d'un lieu à un autre, c'est là, errant dans le monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations, soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaire, binitaire, trinitaire ou, quinquitaire, ou que vous avez été baptisé la face devant, derrière, haut, et toutes sortes de choses, et vous vous disputez et vous érigez des barrières et ainsi de suite. Et c'est Esther la raison pour laquelle l'Église n'avance pas. C'est Esther vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs. Laissez l'un être ceci, et l'autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère, et l'appeler votre frère, et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. 66 J'en arrive au point où je n'ai mis peut mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement. J'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Si nos vues sur la théologie divergent à des milliers de miles, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma sœur. Cestern ou qui avons tracé ses limites, si vous n'aimez pouvez pas aimer votre frère que vous voyez. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'aimez pouvez pas n'avez jamais vu? Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est-il là-dedans? Car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous aimez l'un l'autre, vous aimez Dieu. Paul dit dans Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Ceci nous conduit aux deux autres promesses de Dieu. Pour cette épouse du temps de la fin, devant s'accomplir pendant cet âge de l'épouse du temps de la fin. Et toutes les deux promesses se trouvent dans Romains 8. Et vous pouvez voir comment cela se marie avec l'esprit d'adoption. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans Romains 8. Avant de clôturer. Romains 8, 11 et si l'esprit de celui, qui? Dieu. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui, Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son, Dieu, Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. 16 L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment ? Jean 14, 12, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En doxazo qui signifie la doxa de Dieu dans notre zoé, notre vie, 18 J'estime que les souffrances du temps prisonnier mis sauraient être comparées à la gloire, la doxa, à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, c'est la promesse numéro 2, pour l'épouse de Christ au temps de la fin, qui doit être manifestée en cet âge de l'épouse du temps de la fin. Les fils de Dieu sont manifestés comme fils. Comment? En manifestant sa doxa dans notre zoé, dans nos vies. Le lieu d'adoration pourvu par Dieu 25 avril 1965 p. 100. Qu'est-ce que l'Église? Comment y entrez-vous? Quand vous êtes dedans? Tout ce que Jésus-Christ était, vous l'êtes. Même que d'être fils ou fille de Dieu. Il est devenu vous, afin que vous deveniez lui. La chose est que, vous avez peur de vous en approprier, ou plutôt vous n'avez mis, coopérez pas avec sa parole. Maintenant, cela nous fera aucun bien et que m'importe ce que vous faites. Si vous n'avez mis, venez pas pleinement dans cette parole. Cela n'est mis marchera jamais. Abraham 8 décembre 1956 p. 20. Si vous pouvez débarrasser l'Église de la peur et laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la guérison sera le message le plus simple à prêcher, ou n'importe quoi d'autre. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous n'avez mis vous rendez pas compte que vous êtes fils et filles de Dieu. Et maintenant, non pas que nous le serons. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, non pas dans un futur lointain. Et nous n'y serons pas assis dans les lieux célestes à un moment dans le futur, nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes, maintenant même. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous sommes à la fin n'apparaît pas encore, mais nous savons que nous le verrons, car nous aurons un corps comme le sien. Nous le verrons tel qu'il est. Mais maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu, et l'alliance Esther conclut avec Abraham et sa postérité après lui. Maintenant, remarquez. Eh bien, Dieu n'a pas dit à Abraham, si tu fais ceci, ou si tu fais cela. Il a dit, j'ai toute l'alliance. C'est Esther donc la grâce. Tout à fait. Et il n'y a pas du tout d'œuvre là. Jéhovah Jireh 9 mars 1957 SP, 14. Dieu a choisi Abraham, non pas parce qu'il était instruit, non pas parce qu'il était intelligent, mais parce que Dieu avait vu quelque chose en lui avant la fondation du monde. Et c'est Esther pourquoi vous êtes un chrétien ce soir? C'est Esther parce que Dieu avait vu quelque chose en vous avant la fondation du monde et il a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Comment allez-vous vous perdre? Comment est-ce possible? La Bible dit, la plus grosse erreur que je peux trouver dans toutes ces églises, particulièrement les véritables églises données de nouveau, c'est qu'elles Néhémie ne savent pas ce qu'elles sont. Vous Néhémie vous rendez pas compte du privilège que Dieu vous a accordé. Vous attendez quelque chose là loin dans une espèce de millénium. Mais c'est le diable qui vous a dupé. Nous sommes maintenant des fils de Dieu. Nous Néhémie le deviendrons pas. Nous le sommes maintenant. Et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, est notre propriété personnelle maintenant même. Tout ce pourquoi il est mort, ce n'est pas que nous le deviendrons. Nous le sommes maintenant. Allons rapidement au verset 29 pour gagner du temps. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est sa promesse numéro 3, destinée à l'épouse, en ce temps de l'âge de l'épouse. Nous sommes destinés à être semblables à l'image du Fils premier-né, qui était à l'image de Dieu. Dans sa prédication, nous voudrions voir Jésus 26 février 1957 p. 21. William Branham nous dit la raison pour laquelle Jean 14, 12 Esther pour tous, et quel en Esther le but. Mais maintenant, pendant qu'il Esther ici opérant avec son Église sous la forme de l'Esprit, alors, si son Esprit Esther avec nous, il agira exactement comme lui agissait lorsqu'il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce que ce n'est plus votre esprit, c'est son esprit en vous. L'esprit de Christ en vous. Les choses que je fais. Celui qui croit en moi, Saint Jean 14.12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Nous ferons les mêmes œuvres. Nous aurons les mêmes pensées. Nous mènerons le même genre de vie. Si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fera vivre comme Christ. Vous serez comme Christ. À ce moment-là, vous devenez une épître écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant sa lumière en vous. De même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de son propre corps. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père l'a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu'était l'attitude de Christ, c'était l'attitude de Dieu, parce que les deux œuvraient ensemble, l'esprit et la chair étaient unis. Le Messie 17 janvier 1961 p. 62. Il lui ressemble. Ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen. C'est Esther ainsi qu'Esther l'Église de Dieu. Ses aiglons. Ses messiers. Ils lui ressemblent, ils agissent comme lui, Ils font les œuvres que lui a faites. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car je m'en veux au Père. Amen. Ces signes accompagneront mes aiglons. Amen. Ils agiront exactement comme moi. Si mon esprit estère en eux, alors ils feront les œuvres que je fais. Si Néhémie font pas les œuvres que je fais, c'est que mon esprit n'estère pas en eux. Prions.